Lettre à George Sand, 3 décembre 1869. Cher bon maître, votre vieux troubadour est fortement dénigré par les feuilles. Lisez le constitutionnel de lundi dernier et le gaulois de ce matin. C'est carré et net. On me traite de crétin et de canaille. L'article de Barbey d'Aurevilly, constitutionnel, est en ce genre un modèle. Et celui du bon Sarcey, quoique moins violent, ne lui cède en rien. Ces messieurs réclament au nom de la morale et de l'idéal. Et j'ai eu aussi des éreintements dans le Figaro et dans Paris par Cézanne et Duranty. Je m'en fiche profondément. Ce qui n'empêche pas que je suis étonné par tant de haine et de mauvaise foi. La Tribune, le pays et l'opinion nationale m'ont en revanche fort exalté. Quant aux amis, aux personnes qui ont reçu un exemplaire orné de ma griffe, elles ont peur de se compromettre et on me parle de tout autre chose. Les braves sont rares. Le livre se vend néanmoins très bien, malgré la politique, et Lévy m'a l'air content. Je sais que les bourgeois de Rouen sont furieux contre moi, à cause du père Roque et du caveau des Tuileries. Ils trouvent qu'on devrait empêcher de publier des livres comme ça, textuels. Que je donne la main au rouge et que je suis bien coupable d'attiser les passions révolutionnaires, etc., etc. Bref, je recueille jusqu'à présent très peu de lauriers et aucune feuille de rose ne me blesse. Je vous ai dit, n'est-ce pas, que je retravaillais la féerie. Je fais maintenant un tableau des courses et j'ai enlevé tout ce qui me semblait poncif. Raphaël Félix ne m'a pas l'air empressé de la connaître. Problème. Dans une quinzaine, j'aurai fini et serai alors tout prêt à m'en aller vers vous. Comme j'ai envie de vous embrasser. Mille tendresses de votre vieux Gustave Flaubert. Ah, tous les journaux citent comme preuve de ma bassesse l'épisode de la Turque, que l'on dénature, bien entendu, et Sarcey me compare au marquis de Sade, qu'il avoue n'avoir pas lu. Tout ça ne me dévisse nullement, mais je me demande à quoi bon imprimer.
L'éducation sentimentale, troisième partie, Chapitre 7. Et, exhumant leur jeunesse, à chaque phrase, il se disait « Te rappelles-tu ?» Il revoyait la cour du collège, la chapelle, le parloir, la salle d'armes au bas de l'escalier, des figures de pions et d'élèves, un nommé Angelmar de Versailles qui se taillait des sous-pieds dans de vieilles bottes. Monsieur Mirbal et ses favoris rouges, les deux professeurs de dessin linéaire et de grand dessin, Varro et Suriret, toujours en dispute, et le Polonais, le compatriote de Copernic, avec son système planétaire en carton, astronome ambulant dont on avait payé la séance par un repas au réfectoire. Puis une terrible ribote en promenade, leur première pipe fumée. Les distributions des prix, la joie des vacances. C'était pendant celle de 1837 qu'ils avaient été chez la Turque.
On appelait ainsi une femme qui se nommait de son vrai nom Zoraïde Turque. Et beaucoup de personnes la croyaient une musulmane, une Turque, ce qui ajoutait à la poésie de son établissement, situé au bord de l'eau, derrière le rempart. Même en plein été, il y avait de l'ombre autour de sa maison, reconnaissable à un bocal de poisson rouge près d'un pot de réséda sur une fenêtre. Des demoiselles en camisole blanche avec du fard aux pommettes et de longues boucles d'oreilles frappaient au carreau quand on passait et le soir, sur le pas de la porte, chantonnaient doucement d'une voix rauque. Ce lieu de perdition projetait dans tout l'arrondissement un éclat fantastique. On le désignait par des périphrases, l'endroit que vous savez, une certaine rue, au bas des ponts, les fermières des alentours en tremblaient pour leur mari, les bourgeoises le redoutaient pour leur bonne, parce que la cuisinière de monsieur le sous-préfet y avait été surprise, et c'était bien entendu l'obsession secrète de tous les adolescents.
Or, un dimanche, pendant qu'on était aux vêpres, Frédéric et Deslauriers, s'étant fait préalablement friser, cueillirent des fleurs dans le jardin de madame Moreau, puis sortir par la porte des champs et, après un grand détour dans les vignes, revinrent par la pêcherie et se glissèrent chez la Turque, en tenant toujours leur gros bouquet.
Frédéric présenta le sien, comme un amoureux à sa fiancée, mais la chaleur qu'il faisait, l'appréhension de l'inconnu, une espèce de remords et jusqu'au plaisir de voir d'un seul coup d'œil tant de femmes à sa disposition, l'émurent tellement qu'il devint très pâle et restait sans avancer, sans rien dire. Toutes riaient, joyeuses de son embarras. Croyant qu'on s'en moquait, il s'enfuit. Et comme Frédéric avait l'argent, Deslauriers fut bien obligé de le suivre. On les vit sortir. Cela fit une histoire qui n'était pas oubliée 3 ans après. Ils se la contèrent prolixement, chacun complétant les souvenirs de l'autre. Et quand ils eurent fini, « C'est là ce que nous avons eu de meilleur, » dit Frédéric.
« Oui, peut-être bien. C'est là ce que nous avons eu de meilleur, » dit Deslauriers.